voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Marcello, come here. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Vous êtes bien à l'écoute de Tous les cinémas du monde sur RFI. Nous poursuivons nos rediffusions d'été avec une émission spéciale consacrée au film Leto. Le cinquième long-métrage de Kirill Serebrennikov était en compétition au Festival de Cannes l'an dernier. Nous lui aurions volontiers décerné la Palme d'Or avec Elisabeth, mais il était reparti bredouille. La Palme, tant ce film musical en noir et blanc regorge d'inventivité visuelle et nous fait découvrir deux vedettes du rock russe peu connues en Occident, Victor Tsoï et Mike Naumenko. Deux icônes de la musique moderne russe, surtout Victor Tsoï, mort tragiquement à 28 ans en 1990. Leto retrace leur rencontre dans le Leningrad Underground de 1982, dans la grise Russie soviétique. Leto, disponible désormais en édition DVD et en collector avec près de 2 heures de bonus et un livret de 100 pages. À la sortie du film en salle en France en décembre dernier, nous n'avions pas pu recevoir le réalisateur Kirill Serebrennikov, 49 ans, assigné à résidence pour des accusations de détournement de fonds dont il conteste la réalité. Pour parler de Leto, nous recevions le producteur français du film, Charles-Évrard Tchekhov, bonjour.
Bonjour.
Et Joël Chaperon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des cinématographies d'Europe centrale et orientale et responsable de cette zone au sein d'Unifrance, l'organisme chargé de faire la promotion du cinéma français à l'étranger. Le film Leto commence avec ce titre. On suit en travelling des jeunes gens qui se faufilent à l'arrière d'un club, passent par les toilettes pour aller assister à un concert de rock. On est à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, en 1982, sous Brejnev. Donc, le rock, cette invention de l'Occident, est interdit, sauf dans cet endroit, le Leningrad Rock Club. Alors, Charles-Évrard Tchekhov, Joël Chaperon, ce club, il a vraiment existé?
Alors, il a vraiment existé, et c'était un peu le centre névralgique au moment de cette naissance de la vague rock en URSS. Il existe toujours un peu sous une autre configuration, mais la rue Rubinstein où il se situe est toujours une rue très fréquentée le soir avec beaucoup de vie, et il existe toujours en effet.
Il y avait une certaine tolérance pour des choses qu'on pourrait appeler qualifiées de underground et qui n'étaient pas véritablement réprimées, au contraire, que le pouvoir essayait d'encadrer à l'époque, donc tolérées, pas reconnues, pas évidemment promues par le pouvoir, mais toléré. Et au tout début des années 80, quand commence l'action du film, il y a une espèce de mini ouverture. On est juste après les Jeux Olympiques de 1980, il ne faut pas l'oublier, qui a donné lieu aussi au boycott de pas mal de pays. Et ça va se refermer quasiment au moment où Andropov va mourir et qui va laisser la place à Tchernienko avant que Gorbatchev arrive au pouvoir. Donc on est entre 1980 et 1983. Et puis il y aura une chape de plomb qui va se refermer sur eux entre 83 et 85 jusqu'à ce que Gorbatchev arrive au pouvoir.
C'est une particularité de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, le fait d'avoir cette scène underground rock.
En fait, je crois qu'elle était plus vive, en tout cas à Leningrad à l'époque, qu'à Moscou, parce que le pouvoir central était basé à Moscou, Saint-Pétersbourg étant à quelques centaines de kilomètres, et un peu la deuxième capitale de la ville, était quand même un peu moins sur le radar des autorités, même si elle l'était de manière certaine. Mais il y a eu traditionnellement, même avant l'époque soviétique, toujours une tradition de création et de liberté qui s'est exprimée plus largement à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou, donc également à cette époque-là.
Alors le groupe de rock que l'on voit donc à l'écran dans Leto joue, c'est l'énergie du rock'n'roll, mais alors les jeunes spectateurs, c'est assez étonnant pour nous, spectateurs d'aujourd'hui, de 2018, les jeunes spectateurs de l'époque n'ont pas le droit de crier leur enthousiasme ou d'applaudir trop bruyamment. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait une peur des soviétiques, hein, enfin au pouvoir, des communistes, des mouvements de foule, c'est ça ?
Absolument. Il faut surtout pas qu'il y ait un mouvement de foule. Il faut surtout pas que la foule s'empare d'un spectacle quelconque. Moi-même, pour avoir assisté à un match de foot en 82 à Kiev, le premier rang était réservé aux militaires en uniforme, qui, dès qu'il y avait un but, se tournait vers le public pour faire sortir du stade les plus actifs des spectateurs. Donc, il n'était pas du tout question, évidemment, qu'il y ait ça. D'où le fait que je disais tout à l'heure que c'était toléré, mais c'était évidemment extrêmement encadré.
Le rock, Sophie, disait tout à l'heure, invention de l'Occident. Comment il était vu par les autorités dans ces années-là ?
Mais en fait, je crois que justement, cette première scène qui est assez incroyable du film de Kirill Serebrennikov, où on a ce très long travelling, on est dans la cour, on monte par les échelles, par une porte, par une fenêtre dérobée, par les toilettes en fait du rock club, jusqu'à s'immiscer à l'intérieur de la salle, sur la scène avec cette musique qu'on vient d'entendre qui se joue, elle montre vraiment tout cet esprit. Ce rock, il est présent, il fascine toute cette jeunesse. Elle a envie de se laisser emporter par tout ce que ça peut représenter, de ce qu'ils ne connaissent pas, de liberté, d'expression libre. Et on voit bien que les autorités, on le voit dans cette scène, sont autour et ont quand même toutes les difficultés à contenir la joie spontanée, l'emportement spontané que peut ressentir le public jeune de cette époque-là. Donc on voit tout ça dans cette scène et en fait on se laisse aussi emporter nous-mêmes. Mais il y a en effet un réel engouement à cette période-là parce qu'il y a, comme le disait Joël il y a quelques minutes, une petite ouverture qui commence à poindre, quelques failles dans le mur, quelques interstices qui s'ouvrent, de la musique qui passe parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui peuvent apporter des disques ou des guitares, comme Joël, qui racontera ouais, ça Joël. Des fois. Mais il y a un moment où le courant passe et c'est le début de cette vague. C'est ce que raconte le film aussi.
Et effectivement, le pouvoir essaie de canaliser cette influence qui arrive de l'extérieur. On ne la combat pas comme on a pu la combattre il y a encore 10 ans auparavant, mais ils essaient de canaliser ça du mieux qu'ils peuvent, d'où encore le mot de tolérer, c'est accepter, encadrer, canaliser, sous surveillance, sous contrôle. On le voit bien d'ailleurs dans la scène où les textes des chansons sont visés par quelqu'un.
Il y a un comité de censure.
C'est ça, c'est pas de la censure, c'est, enfin, pour nous évidemment, vu d'ici, évidemment que c'est de la censure, mais pour eux, c'est plus, on vise les textes, on soumet à des personnes qu'on estime être compétentes parce que approuvées par le pouvoir, des textes qui visent évidemment à ne pas perturber la foule.
Donc ils contrôlent, et puis en même temps, est-ce qu'ils n'essaient pas aussi de créer une sorte de rock d'État ?
Aussi, alors c'est l'émergence effectivement d'un rock aussi national qui, on le voit avec le personnage de Mike Naumenko, qui au départ est totalement inspiré, pour pas dire copié, du rock anglo-saxon, avant que des gens comme Tsoï et d'autres arrivent à trouver une voie un peu différente, qui ne soit pas totalement influencée par le rock anglo-saxon, mais qui soit une voie à eux. Naumenko est beaucoup plus influencé par le rock anglo-saxon que ne le sera Tsoï après.
Effectivement, le groupe que l'on voit jouer sur la scène lors de cette première séquence, c'est celui de Mike Naumenko. Et puis l'un des jeunes hommes que l'on suit, hein, qui a des chansons à lui présenter, c'est Victor Tsoï. L'un et l'autre ont réellement existé. Le deuxième, hein, Victor Tsoï, qui était métis, hein, eurasien, est même devenu une icône avec son groupe Kino, dont le film montre en fait presque la naissance. Hein.
Voilà, c'est les prémices du groupe Kino. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est de montrer cette influence de la musique occidentale qui a fasciné les tout premiers musiciens rock underground comme Mike Naumenko, qui était en effet une légende à l'époque, pour finalement, avec la génération qui a tout de suite suivi dans les années 80, dès le début des années 80, dont Kino et Victor Tsoï, s'approprier toutes les valeurs de ce rock occidental et en fait le transcender en le mêlant, en l'hybridant avec toute la profondeur et les particularités culturelles de la Russie. Et on ressent aussi dans les textes et dans la liberté de cette musique proprement russe tout l'héritage aussi de la culture russe. Donc c'est ça qui en fait aussi une musique rock très très particulière, pas simplement une copie de l'Occident. C'est ce que le film fait découvrir aussi, et je crois de manière assez réussie, parce que à la fois on a cette musique qu'on entend, donc c'est un film vraiment extrêmement musical, mais on a aussi tout l'esprit qui soufflait à cette époque-là, qui reprend bien sûr les codes universels du rock.
Alors, Tsoï et Naumenko, le film les présente donc dans leur jeunesse, hein, sous l'angle d'un triangle amoureux formé avec Natacha, la femme de Mike.
face up to the facts. Pins are nervous, can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a relay wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? You can even finish it. You're talking a lot, but you not say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something false. What are you saying again? A psycho killer. Qu'est-ce que c'est?
Pa 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 pa.
Better run, 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 run away. Whoa! A psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh,
aïe, 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 aïe.
Ce que j'ai fait, c'est soir là. Moi, moi. Ce qu'on l'a dit, c'est soir là. Réalisons mon espoir. Je me lance vers la
Alors Joël Chaperon et Charles Évrard, Tchekhov, Leto est tourné en noir et blanc, mais traversé de séquences oniriques, fantasmagoriques en couleur avec des inventions graphiques, un petit côté comédie musicale déjantée, avec un personnage intitulé, enfin qui se nomme le sceptique. C'est qui ?
Le sceptique, en fait, c'est un peu, c'est le cœur grec, c'est le cœur antique, et c'est aussi la conscience de tous ces personnages, et c'est aussi un mécanisme créatif et narratif utilisé par Kirill Serebrennikov, je pense, très habilement, parce que ça permet aux spectateurs et aux films de se distancier d'une certaine approche historique et rigoureuse du biopic. C'est pas un biopic rigoureux, vous l'avez dit, évidemment, ce sont des personnages qui ont existé, mais ce qui intéresse Kirill Serebrennikov dans ces personnages, c'est l'esprit de liberté individuelle, inaliénable, qui peut exister, quel que soit le contexte et quelle que soit l'époque. Et ce personnage du sceptique, qui de temps en temps sort un panneau en disant « mais tout ça n'a jamais existé », permet en fait d'emmener le spectateur dans une vision fantasmée de cette époque, de ce qu'elle représente, et aussi d'y apporter un écho supplémentaire, un niveau de lecture supplémentaire, qu'on peut très très bien en fait utiliser pour raccrocher le film à une réalité très contemporaine, en Russie évidemment, puisque son réalisateur est assigné à résidence, mais je crois dans le monde entier, pas seulement en Russie. Je pense qu'on peut aussi appliquer certaines de ses approches à ce qui se passe en France ou un peu partout dans le monde aujourd'hui.
Oui, et puis en plus, ce personnage du sceptique, c'est vraiment le vecteur entre ce qui se passe à l'écran et le spectateur, notamment le spectateur non russe. C'est-à-dire que ça vous met en position d'imaginer ce qu'ils avaient dans la tête et qu'il ne pouvait pas faire à l'époque. À chaque fois que le sceptique apparaît, c'est aussi sur des scènes très importantes qui montrent comment ça aurait pu, comment cette scène aurait pu se développer s'ils avaient eu la liberté de continuer un concert, continuer une rencontre, continuer quelque chose. Mais malheureusement, à l'époque, c'était interdit. Et il y a une scène, notamment après le tramway, où le fameux sceptique qui donc vient nous dire « ceci n'a pas existé », et il y a à un moment, il dit « mais on aurait tellement aimé ». Et vous êtes en fait dans la tête de tous les personnages où ils se projettent sur quelque chose, un peu comme ces histoires de concerts où vous disiez que les gens sont statiques parce qu'on ne les laisse pas se lever, il n'y a pas de mouvement de foule, et ben justement il y a un moment, il y a un concert où on imagine, et on le voit à l'écran, tout ce qui serait un véritable concert avec un engouement total de la foule, mais ça n'a pas existé et pourtant ils auraient tellement aimé. Et puis il y a une deuxième chose sur le noir et blanc, c'est que pour beaucoup de metteurs en scène russes ou en tout cas soviétiques ou qui sont nés à cette époque-là, l'Union soviétique, c'était en noir et blanc. L'Union soviétique n'avait pas de couleur. Et Alexei German dit que, par exemple, à chaque fois qu'il a tourné un film sur l'Union soviétique, il n'imaginait pas pouvoir mettre de la couleur. Et la seule couleur qu'on trouve dans le film, c'est justement dans ces scènes qui n'ont pas existé, parce que ce sont des scènes de rêve, ce sont des scènes totalement fantasmées, et c'est le seul moment où il y a la couleur. La couleur est dans le rêve, et la réalité, elle est en noir et blanc.
Et le sceptique, ça pourrait être aussi la voix de Kirill Serebrennikov.
Oui,
il était tout petit à ce moment-là, il était tout jeune puisqu'il a 49 ans.
Il était tout petit, il est tout jeune. Ça n'a jamais été un fou non plus du rock des années 80, il le dit lui-même. Ce qui l'a vraiment intéressé là, c'est l'esprit de cette génération auquel il trouve un reflet et un écho très contemporain dans ce qu'il fait lui à Moscou avec sa troupe au Gogol Center, avec dans ses films, dans ses mises en scène d'opéra. Et c'est, je crois que c'est ça qui l'intéressait, c'est ça qu'il avait envie d'exacerber. Et ce sceptique, effectivement, qui dit que ça n'a jamais existé, finalement, il permet aussi de montrer que ça existe à l'écran et ça existe dans l'imaginaire. Et parce que dans le film, toutes ces scènes, elles existent vraiment, on les voit.
Oui, donc en fait, c'est une sorte. Il y avait un exil intérieur à cette période-là. C'est
oui.
Comme ça qu'on appelle ce phénomène.
Absolument. Dans les années 70, il y a eu d'abord effectivement un certain nombre de personnes qui ont réussi à sortir du pays, à la fois considérées comme dissidents, mais aussi à un moment où les Juifs ont eu la possibilité d'émigrer. On est plutôt dans la deuxième moitié des années 70. Et puis, ceux qui sont restés, il y a eu une espèce d'exil intérieur. Il y a des gens qui, mais comme Tsoï d'ailleurs, décident que leur liberté est intérieure et qu'ils n'ont, et ils ne doivent pas subir ce que la vie réelle et le pouvoir leur fait subir. Donc, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a un exil intérieur réel au tournant des années 70-80. Encore une fois, je reviens sur le fait que c'est des périodes très très courtes parce que au moment où Brejnev décède, c'est Andropov qui lui succède. Et cet Andropov, bien qu'il fût à l'époque juste avant à la tête du KGB, a eu une mini période d'ouverture avant que Tchernenko ne la referme, puis que Gorbatchev l'ouvre définitivement. Et toute cette histoire de l'Union soviétique est ponctuée de mini périodes comme ça. On a eu celle du dégel à la fin des années 50 et des années 60, qui permettent l'émergence de certaines formes artistiques. À la fin des années 50, début des années 60, c'est le théâtre et le cinéma et la littérature. Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est 1962. Tarkovsky, le premier film, L'enfance d'Ivan, c'est 62. Et puis ça va se refermer. Et l'histoire de l'Union soviétique est ponctuée d'ouverture et de fermeture.
Ces jeunes rockers, hein, Mike Naumenko et Victor Tsoï en tête, ils n'ont pas forcément, en tout cas dans le film, des textes très politiques. Je pense qu'on est à la période, on est au moment de la guerre, de l'invasion russe en Afghanistan. D'ailleurs, l'un des protagonistes, un musicien, ne sait pas s'il va être appelé ou pas, mais eux, enfin, en tout cas, ne les voient pas à l'écran forcément en parler, en débattre.
Non, je crois que c'est aussi un parti pris du réalisateur de pas créer un film à la couleur de premier plan politique ou contestataire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on a pu dire aussi à de nombreuses reprises. Ça n'est pas un film sur l'absence de liberté ou sur l'oppression ou sur la censure. C'est tout au contraire un film sur la liberté inaliénable. Et donc on revient à cette question de l'exil intérieur, qui pour moi est aussi universelle aujourd'hui. C'est-à-dire que, quel que soit le contexte, en fait, vous avez la possibilité de penser, de faire des choix individuels dans votre vie, des choix créatifs, des choix de pensée, des choix d'amitié, des choix de comportement auprès des gens qui vous entourent. Et c'est ce que ce film raconte. C'est un film sur la liberté, pas un film sur l'oppression. Et en effet, les personnages ne sont pas suivis dans des mouvements de contestation. Et les textes des chansons, on peut y lire, évidemment, un état des lieux de la société et de cette génération, de niveau de vie de cette génération vis-à-vis du système, entre guillemets. Mais c'est presque un effet collatéral de ces textes. Ces textes ne se préoccupent pas de ça. Ils sont à un niveau qui est différent, supérieur ou en tout cas à côté.
Et de toute façon, ces textes-là, admettons même qu'ils aient été contestataires, par définition, ils n'auraient jamais pu être prononcés en public. Donc de toute façon, ils savaient aussi qu'il n'était pas question qu'ils fassent des textes politiques. C'est, il y a la liberté aussi, à partir du moment où ils se produisent en public, que ce soit dans des concerts, dans des clubs ou bien dans des appartements, ils savent aussi jusqu'où ils peuvent aller. Donc il n'est pas question que ces textes-là soient politiques. Il y a eu un immense chanteur qui s'appelait Vladimir Vysotsky, qui lui aussi a été passé sous le joug du pouvoir. Il n'y a pas de texte directement contestataire chez Vysotsky. C'est aussi, comme le dit Charles Évrard, c'est des textes qui sont un peu à la marge, mais il n'était pas question, bien évidemment, qu'ils appellent ni à renverser, ni à dire que l'Amérique est un pays formidable ou que la France est un pays génial. C'était absolument interdit. Il n'y aurait pas ce film s'il y avait eu ces textes-là.
Comment ils faisaient pour se procurer des instruments? Tout à l'heure, Charles Évrard, vous parliez de guitare. Et comment ils faisaient pour entendre, pour même se passer les disques de Bowie ou de T-Rex dont
ils
parlent?
Il y avait beaucoup de bricoles, je crois, à l'époque. Il y avait sur les échanges de disques, c'était assez amusant parce qu'à partir des années 60, il n'y avait pas d'acétate disponible, ce qui permet de fabriquer les vinyles. Donc, un des matériaux qui se rapprochait le plus de l'acétate, c'était les radiographies de rayons X médicales. Donc vous avez, à partir des années 60, des disques, des Beatles par exemple, qui sont gravés et découpés pour faire des vinyles.
Et on voit encore la radiographie.
Avec, vous avez
original.
Un crâne, vous avez une colonne vertébrale, des poumons, des choses comme ça. Après, les instruments de musique, ils se les procuraient. Alors, il y avait plusieurs moyens, mais je pense que Joël Chapron peut répondre beaucoup mieux que moi à cette question, parce que il a participé à
J'ai effectivement, à l'alimentation. En 1982, apporté une guitare électrique sans cordes. Je ne sais pas où ils se procuraient les cordes, mais c'était une époque où, effectivement, on avait, entre guillemets, quand on allait là-bas, des sortes de commandes. J'ai aussi passé un pare-brise de voiture, comme quoi tout peut arriver. Mais c'était des gens comme moi qui... On ne passait pas de choses interdites, parce que ce n'était pas interdit d'apporter une guitare électrique, bien évidemment. Mais c'était des choses qui n'existaient pas en tant que telles pour avoir accès aux instruments. Il fallait avoir aussi des permissions.
Et ouais. Les musiques, T-Rex, Bowie, etc., c'était autorisé?
C'était pas des choses interdites, bien sûr que non. C'était des choses, effectivement, qui étaient autorisées. C'était... On vous embêtait plus quand vous passiez Le Monde ou Le Nouvel Observateur que quand vous passiez une guitare électrique. Moi qui habitais là-bas juste après la guerre d'Afghanistan, enfin le déclenchement de la guerre d'Afghanistan, l'Humanité n'était pas trouvable là où j'habitais, au Kazakhstan, à Alma-Ata, parce que l'Humanité parlait de la guerre en Afghanistan d'une certaine manière à l'époque, alors que je ne pouvais avoir moi accès parmi les journaux de langue française qu'à un journal qui s'appelait Le Drapeau Rouge, qui était l'organe du Parti communiste belge, qui était beaucoup plus proche de la ligne de Moscou que l'Humanité ne l'était.
Voilà, et puis des instruments, pour revenir aux instruments, il y avait quand même aussi quelques groupes occidentaux qui se produisaient, qui venaient avec pas mal d'instruments, et en général, ces guitares ou ces batteries de rechange qui étaient là ne repartaient pas.
Alors Mike Naumenko, que l'on voit dans le film Leto comme une sorte de mentor, il est plus âgé, c'est peut-être un peu le grand frère, enfin il est plus âgé que Victor Tsoï, sert de mentor parce qu'il maîtrise l'anglais, c'est un des
c'est l'une des raisons, c'est l'âge aussi, c'est le fait qu'il soit déjà très installé dans cet underground naissant. Et il maîtrise l'anglais, et c'est vrai qu'on voit dans le film qu'il traduit certaines chansons, et avec quelques scènes qui sont assez drôles d'ailleurs, où ce public russe qui a une certaine fascination pour ces textes étrangers en découvre le sens, et on voit ça en effet dans le film. Donc c'est aussi l'une des clés, c'est qu'il apporte en fait cette lumière de l'Occident.
Mais sans doute que le fait qu'il parlait anglais l'a sans doute mis beaucoup plus sous l'influence des textes anglais que Tsoï, par exemple. C'est-à-dire que lui, il avait accès à l'original et il est plus dans la copie que ceux qui ne parlaient pas anglais et qui s'en sont détachés. Ce que disait tout à l'heure Charles Évrard sur la musique de Tsoï, notamment sur ses paroles, il n'y a plus d'influence de l'anglais, il n'y a plus d'influence des textes originaux. Chez Naumenko, on la sent.
Chez Naumenko, musicalement, on est plus dans le folk rock, et chez Tsoï, dans l'influence de la new wave. C'est ça?
Oui, si on devait vraiment mettre des étiquettes, c'est pas des étiquettes, mais si on devait vraiment un peu classifier et rattacher pour comprendre, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En effet, il y a vraiment une scission avec Kino, où il y a cette appropriation fortement russe et profondément identitaire de cette musique, et plus avec des accents un peu électroniques, un peu plus new wave, en effet.
Знаете, Виктор, как по батюшке?
Виктор
Альбертович, остывает подарок. Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.
I'm a passenger, and I ride and I ride. I ride through the city's backsides. I see the stars come out of the sky.
Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight.
Get into the car, we'll be the passenger, where I feel the city tonight, city, city, real inside.
Yes, the bright and hollow sky, you know it looks so good tonight.
Là, on est dans un tramway et les passagers se mettent à chanter ce titre de Lou Reed. C'est le rocker russe Roma Zver qui joue Mike Naumenko dans Leto et qui assure toute la musique de ce film avec son groupe Zveri. Il nous avait raconté à Cannes comment il avait travaillé pour rendre le son de l'époque.
Ça a été beaucoup de travail. Nous ne voulions pas mentir aux spectateurs. Il fallait donc rester proche du son de l'époque. On a restauré des instruments, mais on a voulu rester au plus près de la réalité. Victor Tsoï, par exemple, avait une guitare à 12 cordes, mais il lui manquait les deux premières. On ne sait pas exactement pourquoi. Du coup, on a joué avec une guitare comme la sienne. On a restauré également une vieille batterie et on a cherché vraiment des sonorités similaires à celles de cette époque, tout en étant accessible à un spectateur d'aujourd'hui habitué à une certaine qualité. Il a fallu que le guitariste de mon groupe joue de la basse pour perdre en qualité technique, mais gagner en authenticité.
Donc, Roma Zver qui parle des instruments bricolés de l'époque, pas très pro, et il explique que, du coup, il a fait jouer de la guitare à son bassiste pour perdre en qualité technique parce que ça sonnait, ça devait pas sonner trop pro, quoi. C'était un peu c'était des amateurs comme au début du mouvement punk, les rockers de l'époque.
Ouais, c'était des amateurs. Premièrement, ils n'étaient pas confrontés à d'autres groupes ou à des équipements simplement pour écouter de la musique dans des bonnes conditions. Donc, il n'y avait pas de point de référence. Et puis, c'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Il y avait les moyens du bord, comme on l'a dit plus tôt. Et donc, en effet, il fallait restituer ce son, cette spontanéité, ce son un peu bricolé, avec les instruments techniquement très au point d'aujourd'hui. Donc, il a fallu récupérer des instruments anciens de cette époque-là, remixer en studio les enregistrements pour les faire sonner comme à l'époque, simplifier le nombre de pistes. Enfin, il y a eu un travail vraiment très en profondeur sur cette musique pour restituer cet esprit, ce ton, ce grain. Cette tessiture musicale, je trouve que ça marche très très bien dans le film, et ça marche bien dans la BO aussi.
Et on a aussi un parallèle à faire à ce moment-là avec les voix qu'on entend, puisque ce sont des chansons anglo-saxonnes, américaines ou britanniques, qui sont chantées par des Russes. On retrouve ce côté amateur, en fait. On n'est pas dans l'original, on est dans la russification de quelque chose. Et cette scène du tramway était absolument géniale. Pour moi, c'est vraiment un tramway nommé délire.
Il y a un côté aussi, quand on voit le film, pureté presque, fraîcheur du rock'n'roll. On n'est pas, puisque effectivement il n'y a pas de scène, il n'y a pas tout ce côté commercial, même au début des années 80, on est en Occident. Là, il n'y a pas de, bon, il y a forcément des problèmes d'ego, mais il n'y a pas l'aspect argent qui peut dénaturer après, faire qu'en Occident, il y a des groupes qui se séparent, etc., etc. Il y a une fraîcheur du rock'n'roll russe, en fait.
C'est vrai qu'on perçoit cette fraîcheur dans le film. Je pense qu'elle existait à l'époque, réellement. Et en même temps, ça reflète un choix du réalisateur de suivre une approche assez candide, parce que il y avait aussi des délires assez poussés, hein, à l'époque, qu'on voit pas forcément dans le film. C'est pas un film qui est trash, c'est un film qui est complètement rock dans l'esprit, mais c'est pas trash, et les rapports entre les personnages, entre les personnages secondaires aussi, sont des rapports d'amitié, de assez purs, assez candides, assez libres, et pas du tout entaché de jalousie, de tension. Il y a quelque chose quand même de très homogène, de très cohérent, qui fait aussi la particularité du film et qui réussit à créer, à mettre en scène une atmosphère unique, en effet, par cet aspect candide.
Le tournage du film, il s'est fait dans quelles conditions ?
Dans des conditions qui sont assez proches de ce qu'on voit quand vous voyez cette première scène sur la plage. En fait, tout le monde a vécu sur le tournage ensemble, tout le monde était là, tout le monde dormait là, tout le monde était à Saint-Pétersbourg. Les gens n'étaient pas, les participants, soit les acteurs ou les techniciens, n'étaient pas forcément de Saint-Pétersbourg. Tout le monde était ensemble. Ça a été un peu comme une espèce de communauté pendant tout le tournage. Évidemment, jusqu'à quasiment la toute fin du tournage, puisque Kirill Serebrennikov a été arrêté sur le tournage quelques jours avant les dernières scènes.
Et comment vous avez du coup travaillé avec lui ? Parce que je crois qu'il a monté le film chez lui.
Il a monté le film
chez lui. Puisqu'il a signé à résidence. Comment vous avez communiqué ?
En fait, bon, pour ces dernières scènes qui restaient à tourner sont des scènes qui avaient déjà été répétées, heureusement, ce qui répète pas mal. C'est un metteur en scène de théâtre aussi, donc il a l'habitude de répéter, de faire répéter ses comédiens pour avoir quelque chose de très spontané à l'écran quand il les filme. Donc tout ça avait été très répété, donc ça a pu être tout simplement enregistré sur la base des instructions et des guides qu'il avait donné lors de ses répétitions. Après, sur le montage, la communication a pu se faire, pas en direct, à travers ses conseils, ses avocats, par qui transitaient des notes de la part de Kirill, et sur des clés USB des ordinateurs, et des versions successives du montage. Donc ça a alourdi évidemment beaucoup le procédé, et sur la partie musicale, ça a été aussi très compliqué, parce que Romain Zver n'a pas pu communiquer directement avec Kirill. Ça s'est fait à distance, par avocat interposé, ce qui est évidemment pas le contexte le plus favorable. Mais au final, je veux pas m'avancer pour le réalisateur, mais je crois que le fait qu'il ait été dans des conditions très difficiles psychologiquement, et des conditions d'enfermement et des conditions d'absence de communication ont dû, je crois, se refléter dans la direction qu'il a donnée à ce montage. Et le film, en tout cas, ne s'en est pas retrouvé affaibli.
Où on est tourné du procès, quoi. Le procès de Kirill Serebrennikov, il s'est ouvert le 7 novembre dernier. Donc, je le rappelle, il est accusé de détournement de subventions publiques dans le cadre de ses activités au centre Gogol. On en est où le procès se poursuit, Joël Chaperon ?
Alors, le procès, effectivement, a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été assigné à résidence depuis août 2017. Le procès a commencé il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Ils en sont encore aux auditions. Kirill a déjà pas mal parlé. Maintenant, il y a des témoins qui sont appelés à la barre. Le procès a été interrompu avant-hier parce qu'il y a une des deux personnes majeures qui a eu un problème d'hypertension, et donc ils ont interrompu le procès. Pour l'instant, il est censé reprendre le 10 décembre. On n'en connaît pas l'issue. Il y a 250 tomes de documents à dépouiller. Il y en a 4 qui ont disparu parce que visiblement ils avaient été demandés par le FSB et ils sont pas revenus au tribunal, donc il manque 4 tomes de documents. On en est aujourd'hui là et on ne sait pas quand aura lieu la fin de ce procès-là. Et on ne sait évidemment pas comment il va se terminer.
Parce qu'il risque 10 ans de prison. Enfin, la peine maximale, c'est a priori prévu par le code.
Oui, absolument. Et en plus, comme j'ai coutume de dire, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que en Russie, les lois sont faites pour être applicables et pas forcément appliquées. On les sort quand on en a besoin, parce que Kirill était aujourd'hui dans le collimateur du pouvoir. Demain, ça pourrait être un autre metteur en scène de théâtre, ça pourrait être un écrivain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce qu'on reproche à Kirill de son histoire de malversation, on peut le sortir pour à peu près n'importe qui aujourd'hui, parce que la bureaucratie comptable en Russie est faite de telle sorte que vous pouvez être accusé de tous les maux très facilement, mais simplement on ne va pas accuser tout le monde, on n'accuse que ceux dont qu'on a besoin d'accuser.
En quoi il gêne Kirill Serebrennikov ? Il gêne par son mode de vie libre, il dérange des valeurs conservatrices.
Oui, il dérange fondamentalement des valeurs conservatrices. Il est devenu aujourd'hui, de toute façon, le principal metteur en scène de théâtre. Il a été invité 2 fois de suite à Avignon. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai cinéaste. C'est son 5e film, c'est son 5e long métrage. Il est en compétition au Festival de Cannes. Il est sur le devant de la scène, et les spectacles notamment qu'il monte vont tout à fait à l'encontre des valeurs qui sont aujourd'hui promues par le pouvoir russe, par l'église orthodoxe, que ce soit les spectacles sur Nouraïev au Bolchoï ou qui ont donné lieu par exemple au film Le Disciple, qui était son précédent film. C'est des choses qui évidemment vont à l'encontre de ce que souhaite aujourd'hui le pouvoir.
Et le film Charles Évrard, vous disiez tout à l'heure que c'est un film du passé, mais qui parle au présent. Est-ce que vous pensez que le film a pu lui aussi peser dans ce procès qui est fait à Kirill Serebrennikov ? Ou en d'autres termes, est-ce que sur le tournage il y avait une ambiance tendue, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été comme un éclair dans un ciel d'azur ?
Alors, est-ce que c'est un film du passé qu'on peut lire au présent ? Je pense que c'est un film du présent qui parle du passé pour comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui en Russie, autour du rock et d'un triangle amoureux. Est-ce que les valeurs de ce film ont gêné Kirill Serebrennikov ? Je ne crois pas, parce qu'il avait commencé à être inquiété bien avant ça, ce qui a d'ailleurs précipité le démarrage du tournage, qui aurait eu lieu probablement un an après, si on n'avait pas eu l'impression que le vent pouvait tourner aussi mal pour lui, puisqu'on y avait retiré son passeport quelques mois avant le tournage. Après, sur le tournage lui-même, non, il y avait une ambiance qui était très bon enfant, et il y avait absolument pas de chape de plomb et de problème jusqu'à ce qu'il soit arrêté.
Joël Chaperon, tout à l'heure, vous parliez des flottements de la censure, c'est-à-dire la censure sous Brejnev n'est pas la même que sous Andropov, qui n'est elle-même pas la même que sous Tchernenko, etc. Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Est-ce que vous, qui êtes vraiment très très proche de nombre de cinéastes russes, entre autres, est-ce qu'il y a eu une évolution de la censure sous Poutine ? Est-ce qu'il y a eu un tournant avec ce nouveau ministre de la Culture en 2012 ?
Alors effectivement, il est plus nouveau. On a même pensé qu'il ne serait plus là lors des dernières élections au printemps dernier, mais il est toujours là, et il y a eu un vrai changement de cap. Le précédent ministre de la Culture avait au contraire été très... Il avait beaucoup soutenu Kirill Serebrennikov, il l'avait même décoré. Le précédent ministre de la Culture trouvait que Serebrennikov était le fer de lance du théâtre contemporain en Russie. Et puis, au moment du changement, Serebrennikov n'est pas tout seul à avoir subi ces changements-là, ils sont nombreux, mais il y a vraiment un retournement de situation. La politique culturelle s'est fondamentalement durcie pour aller vers des valeurs qui sont liées à l'orthodoxie, qui sont des valeurs de recréation et de réécriture de l'histoire. Aussi, toute personne aujourd'hui qui veut faire un film sur un thème historique doit avoir d'abord son scénario visé par un comité spécial d'historiens, parce qu'il y a des historiens maintenant qui se mêlent de savoir si le film peut exister ou pas. Et on le sent absolument tous les jours aujourd'hui, et tous les cinéastes savent très bien qu'ils peuvent se voir refuser des scénarios. Comme l'a dit monsieur le ministre de la Culture, de toute façon nous n'arrosons que les fleurs qui nous plaisent. Ce qui veut dire concrètement que l'État russe ne soutient que les films qu'il souhaite soutenir. Les autres ne sont pas forcément censurés, pas forcément interdits, même si certains le sont, mais en tout cas, on fera sans doute tout pour qu'ils aient le moins d'écho possible. La différence aussi entre le cinéma et la littérature, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus, les Russes ont été des très grands lecteurs, et qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver dans les librairies, un peu spécialisées certes, mais tout à fait ouvertes au public, vous pouvez trouver à peu près tous les livres que vous voulez, y compris des livres de contestataires, des livres de sociologie, des livres de Pierre Bourdieu est traduit en russe, il n'y a absolument aucun souci, parce que la littérature ne représente plus un danger, alors qu'elle représentait un danger il y a une cinquantaine d'années de ça. Aujourd'hui, la littérature ne représente plus un danger. Le cinéma, si. Le cinéma arrive dans les villes. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 salles de cinéma dans toute la Russie, et le cinéma est un danger. Donc, il est évidemment beaucoup plus contrôlé que la littérature.
Et du coup, est-ce qu'il y a aussi une tentative de réécriture du récit national? On parle beaucoup de soft power.
Oui,
est-ce qu'il y a une tentative de la part des autorités d'encourager ces fleurs qui leur plaisent, donc j'imagine qu'ils produisent un récit national qui convient aux conservateurs?
Absolument. On a aujourd'hui des films qu'on pourrait qualifier de blockbusters qui reviennent sur la Deuxième Guerre mondiale pour mettre en exergue un certain nombre de héros de manière à remettre sur le devant de l'actualité la manière que les Russes ont eu de pouvoir se défendre contre les nazis, par exemple. Mais c'est pas juste un film, c'est un film à message qui met en avant la force du peuple russe contre le monde extérieur. Il y a une certaine paranoïa qui s'est aujourd'hui emparée du pays. Ils ont l'impression que personne ne les aime, mais c'est une paranoïa qui est totalement poussée par les médias russes. Quand on voit les médias russes, quand on regarde la télévision aujourd'hui en Russie, on a l'impression effectivement d'un état de siège, que le reste du monde est contre eux.
Donc on pourrait bien avoir, si je vous entends bien, bientôt un blockbuster sur l'annexion de la Crimée.
C'est déjà fait.
Qui est la grande A.
C'est déjà fait. On a déjà aujourd'hui deux films là-dessus. Bien sûr, oui, c'est des films qui marchent. Aujourd'hui, soyons honnêtes, les blockbusters que les Russes font sont de très bonne qualité. Ils n'ont rien à envier aux blockbusters américains en termes de qualité cinématographique, d'action, de scènes d'action. Simplement, les thèmes sont aujourd'hui très orientés.
Je crois qu'il y a une rom-com, une comédie romantique sur un pont, sur le pont qui relie la Russie à la Crimée, c'est ça?
Le fameux pont du détroit de Kerch, absolument, qui fait 19 kilomètres, que M. Poutine a déjà inauguré, mais qui devrait être ouvert sans doute à la circulation d'ici la fin de cette année, et sous lequel donc a eu lieu le fameux accrochage il y a 10 jours avec la marine ukrainienne.
Alors du coup, dans cette situation, quel écho a eu en Russie la sortie de L'Étau, puisque le film est sorti cet été, justement?
Alors, il est sorti juste quelques semaines après Cannes. Il a été sorti, en fait, très largement. Il n'y a eu aucune censure, parce qu'il n'y a pas de comité de censure, hein. En Russie, ça n'existe pas. Il a été sorti par une très grosse société de distribution, puisqu'il s'agit du consortium entre Sony et Disney. Donc, il a été sorti sur un très grand nombre d'écrans. Et il a attiré plus de 350 000 spectateurs, ce qui, pour un film en noir et blanc en Russie, où le public est très jeune et est plutôt enclin à aller voir ou des films d'action ou des films, des gros blockbusters américains, ce qui est un score vraiment excellent. En revanche, et c'est intéressant de noter que, bien qu'il n'y ait aucun comité de censure, aucune chaîne de télévision n'a décidé d'acquérir ce film pour le diffuser. Non pas qu'il y ait eu la moindre interdiction, mais tant qu'il n'y a pas un feu vert officiel qui leur parvient, personne ne bougera. Donc le film, aujourd'hui, n'a jamais été montré à la télévision en Russie.
On n'en a pas parlé, mais le cas d'Oleg Sentsov, qui a été gréviste de la faim pendant très longtemps et dont l'avenir est pour le moins incertain, qui est un autre cinéaste. Est-ce qu'il y a des points de comparaison entre Oleg Sentsov et Kirill Serebrennikov?
Non, je ne trouve pas qu'il y ait de point de comparaison, parce que Kirill Serebrennikov dérange en tant qu'artiste. Oleg Sentsov ne dérangeait pas en tant qu'artiste.
Oleg
Sentsov est ukrainien, il a pris fait et cause contre l'annexion de la Crimée par le pouvoir russe. Il se trouve qu'il est cinéaste, il se trouve qu'il a fait déjà des films, mais ces films-là n'ont jamais été critiqués ou embêtés par le pouvoir ni russe ni ukrainien.
C'est en tant que militant qu'il a été emprisonné.
Effectivement, il est accusé sans doute faussement, mais en tout cas c'est ce que dit Amnesty International, d'avoir fomenté un attentat. Il semblerait qu'il ne l'ait pas fomenté du tout, mais en tout cas il est aujourd'hui attaqué par le pouvoir russe. Ce n'est pas pour des raisons artistiques. Alors il se trouve que ce pourquoi Serebrennikov est assigné à résidence, officiellement, ce ne sont pas pour des raisons artistiques, c'est pour des raisons de malversation financière, mais on sait très bien, et tout le monde le sait, c'est objectif, que c'est parce qu'il dérange en tant qu'artiste, ce qui n'est pas le cas de Sentsov.
Joël Chaperon, tout à l'heure, vous avez cité un autre cinéaste, hein, Alexei German. Il se trouve que à la Berlinale cette année, on a pu voir son film Dovlatov, qui est aussi un biopic d'artiste, hein, d'un écrivain en l'occurrence, pour le coup, moscovite, qui se situe à la même époque, à peu près, non ? Alors, pas la même époque que Leto, ça ressemble.
C'est 10 ans plus tôt. Alors, pour nous, c'est la même époque. Et sauf que on est dans un pays où effectivement tout change tellement vite que c'est pas la même époque. Et puis Dovlatov a fini par quitter le pays. Il est mort à New York et il est enterré là-bas. Il y a une rue qui porte son nom aujourd'hui dans le Queens où il habitait. Et c'est une histoire un peu différente effectivement. Mais c'est une histoire aussi très intéressante, aussi une histoire de censure parce que l'action du film se passe au tout début des années 70, donc exactement 10 ans avant le film Leto, mais aussi 10 ans après l'apparition, j'en parlais tout à l'heure, d'une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de bulle de liberté au tout début des années 60 où Solzhenitsyn arrive à parler du goulag, et quand le Brejnev arrive au pouvoir en 64 et notamment toute la fin des années 60 et des années 70, la chape de plomb se referme et des gens comme Dovlatov ne peuvent plus être publiés alors que 10 ans auparavant ils auraient pu l'être. 10 ans plus tard ils pourraient peut-être l'être, mais à ce moment-là c'était plus possible.
Donc pardon, c'est pas tout à fait la même époque, néanmoins c'est vrai que pour nous, spectateurs occidentaux, quand on découvre ces deux films, Leto et Dovlatov, à quelques mois d'intervalle, on se dit pourquoi ces réalisateurs-là regardent vers le passé. Est-ce que c'est pour justement donner un miroir à leurs contemporains ?
C'est aussi pour donner un miroir aux contemporains, et c'est vrai que le film de German Jr. et le film de Serebrennikov sont des exceptions. Il y a très très peu, moi qui en vois beaucoup, très très peu de films russes qui reviennent sur les années 70 et les années 80. Très très peu. C'est vraiment, on les compte sur les doigts d'une main quand les cinéastes russes se tournent vers le passé, c'est du passé antérieur, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est avant, c'est le 19e siècle, y compris sur les blockbusters dont je parlais tout à l'heure, sur Mathilda par exemple, qui revient sur une histoire d'amour de Nicolas II, etc. Mais les années 70, les années 80 sont assez peu présentes au cinéma en Russie aujourd'hui.
Et l'une des autres raisons pour cette absence de cette époque au cinéma, c'est qu'on n'avait pas le recul. Pour revenir précisément au cas de Leto, je pense que c'est un film qu'il aurait été difficile de mettre en scène et de faire il y a même moins de 10 ans. Je pense que c'est vraiment le tout premier moment où on peut commencer à parler de ça, parce que il y a une génération complète qui est passée et qu'on a le recul suffisant pour l'appréhender, la sentir et en comprendre les effets aujourd'hui. Plus tôt, c'était difficile de le faire. Donc c'est un film qui arrive vraiment au moment où il peut exister.
Charles Évrard, Tchekhov et Joël Chaperon, merci. Leto, je le rappelle, est désormais disponible en coffret DVD et en coffret collector, avec un livret de 100 pages et près de 2 heures de bonus. La bande originale est disponible sur les plateformes de streaming, mais également en CD et vinyle, édité par Milan Musique. Joël Chaperon, vous avez signé avec Christelle Verjade un livre sur Moscou et Saint-Pétersbourg mis en scène. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous.